Charles Ferdinand Ramu. Nouvelles. Pastorales. Des fois qu'on pourrait faire un feu. J'ai rien. Tu as de quoi? Bien sûr. Il tire de sa poche une boîte à allumettes en laiton, de forme ovale, avec un couvercle à ressort. Il s'assied. Il la vide dans le creux de sa main. Tu vois? Des allumettes phosphoriques à tête rouge. Une, deux, trois, quatre, j'en ai huit. Huit, a-t-elle dit? C'est pas beaucoup. Ça suffit quand on sait y faire. Moi, je sais. Toi, tu sais pas. C'est un garçon de 14 ans qui est sorti on ne sait d'où. Elle, elle garde les chèvres. Il a les mains dans ses poches, le nez rouge, les cheveux plantés raides sur sa tête comme des clous. Il tient dans sa main gauche son chapeau de feutre roulé. Il fait du vent. Il fait toujours du vent sur ses mamelons gazonnés qui sont au-dessus du village. Il vient par-dessus la grande vallée, large ouverte devant vous, dans un mouvement continu, faisant sonner l'écorce de terre et de roche, et il se heurte à cette éminence où nous sommes, avec notre petit troupeau, à 7 heures du soir. Il vient depuis l'autre côté de la vallée, sautant par-dessus les sommets de la chaîne du sud, qui sont blancs en toute saison, et vient sur vous avec toute sa force, sans que rien puisse l'arrêter. Alors le poil des chèvres se lève droit sur leur échine maigre, leur barbiche est éparpillée. Elles se tournent la queue au vent et, ouvrant leur museau pointu où tremble une langue râpeuse, poussent vers vous un long bêlement éperdu. Elle, sa jupe s'envole par-dessus sa tête, elle la rabat des deux mains. Elle a une capeline de laine rose tricotée qui se noue sous le menton. Un tablier noir déchiré, de gros souliers frottés de terre, dont l'empeigne trop large laisse autour des chevilles un vide où on pourrait fourrer la main. Mais le plus ennuyeux, c'est encore les cheveux. Une mèche qui dépasse est tout le temps rabattue contre sa bouche et elle la mâchouille et l'avale, tandis qu'elle cherche à la rattraper. Mais elle s'envole de nouveau. Les pies sont emportées comme des morceaux de papier à demi consumés hors d'une cheminée. On est un peu au-dessus de la forêt. C'est des pins. La forêt craque. La forêt penche. On la voit qui se renverse tout à coup en arrière, montrant le rouge de ses troncs. Puis elle se rabat en avant. Elle disparaît sous son branchage. La forêt est rouge. Elle est noire. Elle est tour à tour rouge ou noire. Il y a une détonation. Ça craque. Et puis on ne sait plus parce qu'on est jeté les deux mains en avant contre terre. Alors on montre son derrière. Et les chèvres cessent de brouter, étonnées de cette herbe qui elle-même change de place, semble les fuir et est comme de l'eau qui remonterait la pente. Et ce feu? Il faut crier pour se faire entendre. Il crie. Va chercher le bois. Elle se baisse dans le vent sur la pente, arrache une touffe de mousse, ramasse ici une branche sèche, plus loin un morceau de bois mort, et revient, son tablier plein. Il lui crie. J'ai des pives. Tu mets la mousse dessus, tu mets dessus le petit bois, et par-dessus le petit bois, quelque chose qui tienne le feu. Lui a des pives plein ses poches. Il sort ses pives. Il repousse la fille parce qu'elle ne sait pas y faire et organise lui-même l'échafaudage, ayant soin que le menu bois se trouve bien entrecroisé. Il dispose au sommet une souche de mélèze. Comme ça, ça tiendra. Il se jette à plat ventre. Elle, elle est debout à côté de lui. Il ramène sur sa tête les pans de sa veste d'homme. Il se construit ainsi une manière de grotte, une espèce de petite cabane où le vent ne peut pas entrer. Il disparaît dedans. On ne voit plus sa tête. Il a les pieds en l'air. Il bouge au-dessus de lui drôlement en tous sens. Et il écrit en l'air des choses avec ses pieds. Lui, on ne peut plus l'entendre. Sa main alors se montre. Elle s'en va le long du pantalon, cherche la poche, trouve la poche et en ressort avec la boîte de laiton, laquelle, à son tour, est escamotée. Puis, sa tête se montre un instant de nouveau. « Veille, toi, ça va y être !» Il est rentré dans sa maison, mais il tousse. On l'entend qui tousse. C'est le soufre. C'est ses allumettes phosphoriques qui ont une tête rouge et le bois est enduit d'une matière jaune qui brûle sans faire de flamme, mais en sentant mauvais. Sa tête se montre, ratée. Il a les yeux pleins de larmes. Il jette l'allumette à demi consumée. Elle attend à côté de lui, les mains sur ses genoux, pleine de sollicitude. Elle attend que ça prenne. Est-ce que cette fois ça va prendre? C'est raté, encore une fois. L'allumette s'est cassée. Il a dit, c'est pas fini. Il disparaît sous sa veste. Et tout à coup, on en voit sortir un léger filet de fumée que le vent aussitôt détord et éparpille dans tous les sens. Il crie, ça y est! Pas vrai. Mais lui a rabattu sa veste. Il lève la tête vers elle, sans rien dire. Il n'y a pas besoin de rien dire, il n'y a qu'à regarder. On voit que la mousse a pris. Le vent creuse dedans du trou, qui, du rouge sombre, tourne au blanc, tandis que les brindilles, qui sont dessus, prennent à leur tour, se tordent. Alors, une flamme s'est mise à claquer joyeusement, pointue au bout comme une plume, que le vent rabat contre terre et dont il détache la pointe, mais sans réussir à l'éteindre, l'activant, bien au contraire. « Dépêche-toi, vas-y, du bois !» Il a de l'autorité. Elle court, se baisse, se redresse, elle a rempli son tablier. Lui, fous-y les grosses branches. Ils s'en mêlent tous les deux. Ils jettent tour à tour sur le brasier qui fume blanc tout ce qui peut brûler, sans plus choisir. Car quand le feu est bien enraciné, il dévore tout ce qu'on lui présente. Le feu a pris racine en terre, du côté où souffle le vent. Une grotte s'y est creusée, où, sur le fond du blanc insoutenable de la braise, la cendre du meux du bois fait comme beaucoup de petits tubes gris qui ont gardé la forme de ce qui leur a donné naissance, mais sont sans poids, impalpables, et qui s'envolent dès qu'on souffle dessus. Tu n'as rien? Pas grand-chose. Des pommes de terre? Elle secoue la tête. Un bout de pain et de fromage, tout ce qui reste dans mon sac. Elle a un petit sac de toile qui lui pend sur la hanche. Montre. Il a dit, c'est tout? Tu n'as même pas un couteau? Heureusement qu'il a le sien dont il est fier, parce qu'il est à deux lames. On tâchera d'y faire, dit-il, passe le pain. Ils s'étendent tous les deux sur le ventre face au feu. Elle, le vent lui retrousse sa jupe par-dessus les épaules. Elle a une culotte de flanelle coton rose frottée de noir, d'où sortent ses cuisses maigres, et plus bas, montent jusqu'aux genoux des bas de grosse laine, rose également. C'est le vent, c'est toujours le vent. Il vient inépuisablement de pays inconnus, par-dessus les montagnes. Maintenant, une grande chevelure qui bouge est en arrière du tas de bois soigneusement renouvelé. Est en arrière du tas de bois soigneusement renouvelé, où toute espèce de larve se tortille en rougeoyant, puis se couvre d'une cendre blanche qui est comme une moisissure. Ils sont couchés l'un à côté de l'autre, le dos au vent, les pieds en l'air, leurs quatre pieds dans des gros souliers de cuir dur, dont on voit les rangées de clous briller dans un reste de jour. Il a piqué, du bout de son couteau, le fromage qu'elle lui a passé. Ce n'est guère que de la croûte. Elle est dure comme du caillou. Mais en la tournant du bon côté, peut-être pourra-t-on attirer quand même quelque chose. Et c'est du bon côté qu'il expose à la flamme. La pâte s'amollit et fume en grésillant. Il taille, dans le quartier de pain, des tranches minces, deux pour chacun. Puis, avec son couteau, il racle le fromage, qui est tout recouvert de petites ampoules qui éclatent dès qu'on y touche, ce qui donne une espèce de crème demi-liquide qui sent bon, qui vous emplit la bouche d'eau. Il mâche sans parler. Il y aura assez de fromage pour en frotter les deux autres tranches. Il est juste. Elle ne dit rien. Elle est contente. Ils sont couchés à côté l'un de l'autre. Ils pensent. C'est bon. C'est chaud. On se brûle la langue. Ils ont la figure face au feu, de sorte qu'ils sont rôtis par devant. Mais le froid est partout autrement dans leur corps. Et le vent fait qu'il entre. Le froid et dans leurs pieds, sur leur dos, sous leur ventre. Mais ils mangent tant qu'ils peuvent, et ça les réchauffe en dedans. Alors, ils se mettent à parler. Il dit « Tu ne sais pas? Je vais me marier. »« Ah, » dit-elle, « avec qui ?» Il parle haut à cause du vent. « Je ne peux pas te dire, mais elle est riche. »«
Elle veut bien ?»
Pardi. Mais si elle me fait faux bon, je me marierai avec toi parce que tu es une bonne fille.
Et si je ne veux pas, moi?
Que si tu voudras bien.
Elle lui a tiré la langue. Il n'y a plus de fromage et le pain est mangé. Ils se lèvent, ils se chauffent les mains, ils ont les mains violettes. Ils ont la figure qui leur cuit. Ils sont un garçon et une fille. La nuit vient. Le creux où se tient le village, au-dessous d'eux, se remplit d'ombre. Et il semble que le vent, en passant, prenne un peu dans sa main de cette ombre et la jette sur la pente. On la voit courir vers vous comme une fumée. Elle vous vient dessus, on est pris dedans.
C'est l'heure. Il va falloir rentrer.
Tu m'aides ?
Bien sûr, dit-il, puisqu'on se mariera ensemble. Il y a les chèvres à rassembler, et les chèvres, c'est pas commode. C'est têtu, c'est buté, ces bêtes. Elles font toujours le contraire de ce qu'on voudrait qu'elles fassent. Il part en poussant des cris. Elle lève son bâton. Il court en rond tout autour du troupeau. Elle le chasse devant elle. Mais il y a toujours une bête qui échappe. Si on lui court après, les autres s'éparpillent. Il pousse des cris, il ramasse des cailloux. Encore faut-il savoir s'en servir et être adroit et faire en sorte, par exemple, qu'il tombe du côté opposé à celui où la chèvre doit aller. C'est long, c'est difficile, le vent s'en mêle. Les chèvres vont contre le vent qui leur lisse le poil sur l'échine. Toutes ces barbiches vont en arrière. Il y a la résistance. Il y a ce mur élastique qu'il faut faire céder, et il faut s'enfoncer dedans avec effort avant qu'il croule autour de vous. Alors, à grands coups de bâton, il continue à pousser des cris, et il continue à jeter des pierres. Ils finissent par engager la tête du troupeau sur le chemin. Le chemin descend raide, on y voit mal. On distingue seulement qu'il y a devant vous comme des vagues incertaines marquées de place en place d'un peu d'écume blanche. Et puis ça se met à couler, ça dégringole, ça devient une cascade qui saute d'un quartier de rocher à un autre quartier de rocher.
On s'étonne. Le vent s'est tu. On entend tout à coup le bruit d'averse des sabots. Et le vent, cependant, continue à souffler avec force au-dessus de vous, chassant toujours de gros nuages disloqués qui laissent passer entre eux un reste de jour et s'entrechoquent. Mais à mesure qu'on descend et qu'on quitte les hauteurs troublées, on entre dans le calme et la sérénité. Quelque chose vient à votre rencontre, une toute petite voix claire, une note comme un cri d'oiseau. Il en vient une et encore une. Elles vous arrivent séparées, puis dégringolent sur vous toutes à la fois. C'est comme quand on sème la graine à la volée et les grains plus légers s'envolent, les lourds tombent autour de vous. Des notes vives, un coup sourd. Toute une chanson qui commence l'Angélus, l'Angélus du soir. « Oh, dit-elle, on va être en retard. Il n'y a qu'à presser les bêtes. » Elle lève encore son bâton. Mais le troupeau est à présent tranquille, canalisé qu'il est par les barrières qui s'élèvent de chaque côté du chemin. Il ne peut plus déborder. Le bâton sonne sur les échines. Il coule un instant plus rapide. Il est noir dans le noir et son moutonnement n'est indiqué par place que par un dos plus clair qui se soulève, puis retombe, comme quand il y a une pierre au milieu du torrent. On approche du parc. Les femmes sont là qui attendent. Les femmes disent : « Comme tu es tard, qu'est-ce que tu as fait ? »